Amen. Merci Jésus pour ce super moment dans sa présence, pour sa douce présence. Amen. J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles, si vous les avez, ou nos iPhones, ou enfin en tout cas nos Bibles, qu'elles soient électroniques ou en papier, dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 7. Un court verset qui sera l'objet de notre méditation ce matin. Et je voulais vous prévenir aussi, je ne pensais pas que je pose des regards hautains sur vous ce matin, mais j'ai un début de torticolis, donc je tourne la tête un petit peu comme ça. Je ne suis pas souple du coup, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste que voilà, j'ai un petit défaut, mais ça va passer. Amen. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7, nous lisons « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. On va le relire. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Et puisque c'est la journée où l'Église proclame, on l'a vu pendant la louange, on l'a vu pendant le temps de Sainte-Seine, je vais nous inviter à le proclamer tous ensemble, ce verset, une troisième fois. « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Amen. Ah oui, je pensais prier, mais on l'a déjà fait. Donc ça... Non, je plaisante. Nous vivons, frères et sœurs, dans les temps de la fin. Ça, c'est indéniable. Il y a beaucoup de prophéties qui se sont déjà accomplies. Il y a d'autres prophéties qui ont été données il y a des années, des siècles et des siècles, même des millénaires, et qui sont en train de s'accomplir. Il y en a d'autres qui vont arriver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur revient bientôt, et bientôt, nous serons en effet, nous le verrons apparaître sur les nuées. Et il viendra par la suite nous chercher, et nous vivrons avec lui pour l'éternité. Amen. Débarrassé de notre nature humaine, débarrassé de tout ce qui nous encombre, débarrassé de ce monde corrompu et pervers, débarrassé de l'ennemi de nos âmes. Amen. Et Satan le sait, il sait que les temps sont courts, il sait que la fin est proche, et la Bible nous dit qu'il est animé d'une grande colère. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 12, c'est facile, Apocalypse 12, 12, il nous est dit que « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer. Pourquoi ? Parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Ça a été écrit il y a plus de 2000 ans, hein, ça a été écrit dans une grotte à Patmos par l'apôtre Jean. Et donc déjà à cette époque, Dieu révélait à Jean que le diable était animé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc si on est à 2000 ans de plus, c'est qu'il y a encore moins de temps que ce qu'il y avait au moment de la révélation de Jean. Donc là, c'est pas qu'il y a peu de temps, il y a très très peu de temps. Il a très 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 peu de temps. Et donc il est animé d'une grande colère. Le combat est donc intense, le combat spirituel, et il va continuer de s'intensifier jusqu'au retour de Jésus. Contre le diable, contre les forces du mal, contre tout ce qui nous veut du mal. Et il va falloir être solidement armé, mes frères, mes sœurs, pour pouvoir fuir, pour le voir fuir devant nous. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Avant de méditer ces versets, je voudrais rappeler qui est le diable et ce qu'il veut faire. Alors je ne fais pas ça pour nous effrayer, parce qu'on le verra après. On sait qu'il est vaincu. Il est vaincu d'avance. Je fais juste ça pour vous montrer quelle est son intention. Et son intention, c'est de nous nuire, c'est de nous faire du mal. Alors d'abord, ce qu'il est, en cinq points, ce que j'ai pris dans la parole de Dieu, ce n'est pas exhaustif. Hein, il y a plein de choses, il y a plein de versets qui nous parlent de comment est le diable et comment il peut être décrit. Mais moi, ce que je relève ce matin, c'est que le diable, d'abord, est un menteur. D'accord ? Jean chapitre 8, verset 44. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, c'est-à-dire qu'il ment constamment, car il est menteur et père du mensonge. Donc c'est un menteur. Et ça, c'est un premier point à bien avoir en tête quand il vous parle, quand il vient avec sa voix doucereuse. il ne dit que des mensonges en fait. La Bible nous le dit, il n'y a pas de vérité en lui. Donc tout ce qu'il te dit est mensonge. Amen. C'est pas des fois il nous ment, des fois non. Tout ce qu'il te dit est mensonge. Sinon la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. Amen. Il est rôdeur également. 1 Pierre 5,8, votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde, comme ça, il passe comme ça dans le monde. La Bible nous dit qu'il se balade aussi sur la terre. À un moment, il est allé, dans l'histoire de Job, il s'est présenté au trône de Dieu. Il a dit, je me baladais sur la terre. Donc il rôde, il se balade comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc c'est un rôdeur. Il cherche, il fouille, il fouine. Il cherche à nous nuire, donc il va chercher le petit truc, la petite chose, la petite faiblesse pour nous attaquer. Il est manipulateur, troisième point, 2 Corinthiens 2,11, car nous n'ignorons pas ses desseins, et une autre traduction nous dit ses machinations. Donc en fait, il est manipulateur, il prévoit des desseins, des plans, des machinations pour nous manipuler. Menteur, rôdeur, manipulateur. Quatrième point, il est rusé. Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. D'accord ? Donc là, on voit un diable, Satan, qui est un être rusé. Il est malin. Ok ? Donc menteur, rôdeur, chercheur, fouilleur, fouineur, manipulateur, rusé. Et le cinquième point, j'en ai parlé en introduction, il est en colère. Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi. Réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux, vous êtes libérés de cet être que j'ai précipité sur la terre. Mais malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà ce qu'est le diable, un menteur, un rôdeur, un manipulateur, un rusé, et il est en colère. Maintenant, je voudrais juste voir aussi avec vous ce que le diable veut faire. Parce qu'il pourrait tout ça et rester dans son coin et ne rien faire. Mais ce n'est pas le cas. Et il veut nous faire déjà la guerre, tout simplement. C'est un mot fort, la guerre. C'est puissant. Il y a des guerres en ce moment dans le monde. Eh bien, Dieu est en guerre contre nous, frères et sœurs. Vous le savez, on le sait, mais... oui, le diable, pardon. Oui, pardon. Voilà, le diable veut nous faire la guerre. Apocalypse 12, 17, et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Est-ce que nous avons le témoignage de Jésus ? Oui. Est-ce que nous gardons les commandements de Dieu ? Oui. Eh bien, à cela, Satan a prévu de faire la guerre. Ok ? Deuxième point, il veut nous cribler, nous briser. Le Seigneur dira à Simon, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » D'accord ? Donc il veut nous passer à la moulinette, il veut nous briser. Troisième point, il veut nous accuser. Apocalypse 12, 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. » Il veut nous faire la guerre, il veut nous cribler, il veut nous accuser. Avant que Jésus vienne sur la croix, en fait, la Bible nous dit que le diable se présentait devant le trône de Dieu pour accuser les élus de Dieu, constamment, jour et nuit. Aujourd'hui, Jésus est notre avocat, d'accord ? Il intercède auprès du Père, il est notre avocat, il a porté nos fautes, il a porté notre péché, c'est notre avocat. Donc Satan ne va plus forcément nous accuser auprès du trône de Dieu, mais il nous accuse nous-mêmes. Okay, il s'adresse directement à nous. Et quatrième point, il veut dérober, égorger et détruire. Dans Jean 10, 10, le voleur, ou alors une autre traduction dit l'ennemi, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et à contrario, le Seigneur dira, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Amen. Donc le diable est menteur, rôdeur, manipulateur, rusé, en colère. Et le diable veut nous faire la guerre, nous cribler, nous accuser et dérober, égorger et détruire. Voilà. Voilà le programme du diable, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il veut faire. Et ça ne doit pas nous faire peur, frères et sœurs. Je ne suis pas là pour vous effrayer, mais juste pour vous rappeler quelle est l'intention du diable, ce qu'il veut faire. Et pour nous dire, c'est pas étonnant Si, dans les temps de la fin, il est animé d'une grande colère, il va venir nous chercher, il va venir nous attaquer, il va venir nous titiller, il va venir essayer de nous détourner du plan que Dieu a prévu pour nos vies. Ne nous en étonnons pas, c'est normal. C'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. On s'est engagé avec le Seigneur Jésus, c'est le prix à payer. Amen. C'est cette croix-là, il faut qu'on la porte. Les attaques du diable, c'est normal et ça va devenir de plus en plus intense. Amen. Pour autant, comme je disais, Dieu l'a précipité sur la terre. Amen. Et il a déjà vaincu. Dans Matthieu 28, 18, on lit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est Jésus qui parle. « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et quand Jésus est monté sur la croix et qu'il s'est donné pour nous tous, il nous a donné ce pouvoir-là. Okay, il a donné à l'humanité, à ceux qui le suivent, cette autorité et cette domination sur l'ennemi. Matthieu 18, 18, Jésus dira à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Amen. Et dans Luc 10, 19, il dira encore à ses disciples, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. » La puissance, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Donc on est plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Face à ce Satan, face à ce diable, malgré ce qu'il est, malgré ce qu'il veut faire, on est plus que vainqueur. Ce qui ne va pas empêcher le combat, frères et sœurs. Ce qui ne va pas empêcher la bataille. Mais on est plus que vainqueur. Et moi, ce que je constate, alors je parle de ma vie, bien entendu, mais je parle de la vie aussi globale de l'Église, c'est que souvent, en fait, moi personnellement, pour de multiples raisons, et pour être honnête avec vous, j'ai eu tendance à fuir devant l'ennemi. Et ce verset-là, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous », ben, ça a été l'effet inverse en fait. La finalité, ça n'a pas été que l'ennemi a fui devant moi, mais c'est moi qui ai fui devant l'ennemi. J'ai eu tendance aussi, à d'autres moments, à ployer sous les assauts, sous les traits enflammés du malin, à même des fois abandonner un combat, alors que Dieu, on l'a vu, nous donne et nous promet la victoire sur l'ennemi. Et malgré toutes les armes que l'on connaît, hein, qui sont décrites dans les épîtres, le casque du salut, malgré l'épée de l'esprit, malgré le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, et j'en oublie, la ceinture de la vérité, merci, dont nous nous emparons, et avec une belle intention, des fois, force est de constater que nous n'arrivons pas à vaincre l'ennemi, et que ce n'est pas lui qui fuit devant nous, mais c'est nous qui fuyons devant lui. J'espère que ce n'est pas la majorité des cas, mais moi ça m'est arrivé et je pense que c'est arrivé à chacun d'entre nous, soyons honnêtes. Et c'est là que je me pose la question, mais comment analyser ce verset ? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Déjà dans ce verset, frères et sœurs, il y a trois étapes. Il y a d'abord la soumission à l'Éternel, et c'est le point crucial, on le verra. Deuxièmement, la résistance au diable. Et troisièmement, la conséquence, c'est la fuite de l'ennemi devant nous. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais enfant, ce verset, en fait, je n'ai jamais étudié comme cela. Je n'ai jamais lu comme ça. On ne me l'a jamais enseigné comme cela. On me l'a enseigné coupé en deux. On m'a enseigné résister au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mettez le casque du salut, prenez le bouclier de la foi, résistez, armez-vous des armes que Dieu nous donne et il fuira loin de vous. Et malgré ça, ben, comme je l'ai dit, j'ai constaté que souvent, ben, c'est pas lui qui fuyait, mais c'est moi qui fuyais devant lui. Et en fait, on avait omis de dire la phrase qu'il y avait juste avant, « Soumettez-vous donc à Dieu ». Alors je peux le comprendre en fait, parce que ce verset-là, en fait, vous savez que la parole de Dieu a été séparée en chapitres, en versets, ok ? Ça s'est fait pour les chapitres au XIIIe siècle, et pour les versets, je crois que c'est lors de l'apparition de la Vulgate au XVe siècle, peu importe, mais en tout cas voilà, Et ça a été fait juste dans le but de se repérer dans la Bible, en fait. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, on a essayé de garder l'état d'esprit, en fait, de ce que Dieu voulait dire et de faire des chapitres en fonction de ça. Mais ça a été fait juste pour pouvoir se repérer dans la Bible, pour pouvoir donner des... Voilà. Et en fait, dans la version Darby, j'ai remarqué que ce verset-là, justement, de Jacques 4, 7, commence par « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et le « Soumettez-vous à Dieu » est en fait le verset 6 et pas le verset 7. Bon, voilà, c'est juste pour l'anecdote, mais je comprends aujourd'hui pourquoi moi j'ai toujours entendu ce verset-là que sur la moitié de ce verset-là. Et je n'avais rarement entendu prêcher sur « Soumettez-vous à Dieu ». Et en fait, c'est pourtant hyper crucial, parce que finalement, ce que nous dit ce verset-là, c'est que, ou cette pensée-là, parce que finalement les versets ont été divisés, mais cette pensée-là, c'est que résister sans se soumettre à Dieu, résister à l'ennemi sans se soumettre à Dieu au préalable, c'est voué à l'échec. Parce que quand on n'est pas soumis à Dieu, quand on est insoumis, on ouvre des portes à l'ennemi, on ouvre des accès à l'ennemi. Et s'il y a un accès, ben, l'armure, elle n'est pas hermétique. S'il y a un accès, le trait enflammé va nous atteindre. S'il y a une insoumission, s'il y a quelque chose qui n'est pas net, pas clair dans nos vies, le trait enflammé va nous atteindre, tout simplement. Et on aura beau faire des efforts et être intentionnel pour combattre, pour lutter contre l'ennemi, le risque que l'on prend, c'est que, en finalité, c'est nous qui allons déguerpir et ce n'est pas lui qui va déguerpir. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 2 Corinthiens 2,11 nous dit ne pas laisser à Satan l'avantage. Ou alors, une autre traduction nous dit le dessus sur nous. Et dans Éphésiens, il nous est dit dans le même esprit, ne donnez pas accès au diable. Ou une autre version dit ne donnez pas occasion au diable. Sous-entendu, occasion de vous toucher, occasion de vous provoquer, occasion de vous accuser, occasion de vous combattre, de vous faire la guerre. Et en fait, quand je lis ça et quand je réalise ça, frères et sœurs, je me dis que le plus grand danger auquel nous devons faire face, finalement, n'est plus véritablement Satan, puisque le Satan a été vaincu à la croix du calvaire, mais le plus grand danger auquel nous faisons face est notre insoumission à Dieu. Notre insoumission à Dieu. Non, je pèse mes paroles parce que quand j'ai reçu ce message-là, vraiment, c'est très fort. Et je pense que c'est là qu'il faut démarrer, frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est que la soumission à Dieu ? La soumission à Dieu, c'est accepter sa volonté pour notre vie et accepter de faire sa volonté. Et c'est l'obéissance également, obéissance à ce qu'il nous demande, obéissance à Dieu en toutes choses. Et le petit clin d'œil aussi de ce mot « soumission », en fait, si on divise le mot « soumission », il y a le « sous » et il y a la « mission ». Amen. Et moi, ce que j'entends par là, c'est se placer sous la mission que Dieu nous a confiée. Se placer sous la mission que Dieu veut pour nos vies. Amen. Quand on est soumis à Dieu, on se soumet à Dieu parce qu'on reconnaît qu'il est le Dieu unique, le seul souverain qui soit. On obéit à Dieu parce qu'on a confiance en lui. Et ça passe par une mort à soi-même. C'est évident, parce que les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Et si on veut être soumis à Dieu, forcément, la chair va regimber. Ça va passer par un temps de mort à soi-même, de renoncement. Ça va être dur, dur dans la chair. Et pour autant, c'est la volonté de Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est essentiel parce que vous connaissez ces versets dans Samuel qui nous disent que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et il est rajouté car la désobéissance, donc la non-soumission à Dieu, l'insoumission est aussi coupable que la divination et la résistance ou insoumission, selon certaines versions, ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et là aussi, petit flashback par rapport à quand j'étais enfant, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Moi, quand j'étais enfant, je ne comprenais pas cette phrase. Parce que je me disais, mais Dieu est Dieu, il est tout puissant, sa volonté s'accomplit forcément. Pourquoi il nous demande de prier ça? Ben, il nous demande de prier ça, je le réalise aujourd'hui, alors que je prépare ce message et je le prêche. C'est qu'en fait, il nous demande, c'est un appel en fait à la soumission à sa volonté dans nos vies. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand on est enfant de Dieu et qu'on fait cette prière, qu'on prie cette prière, ça veut dire je veux me taire, je veux faire taire ma nature humaine et je veux te soumettre toutes choses. Amen. Amen. C'est important aussi la soumission, l'obéissance à Dieu, parce que ça conditionne notre marche selon l'Esprit. Vous savez que quand Jésus est remonté au ciel, il a dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit venant sur vous, cette puissance, et vous serez guidés par le Saint-Esprit. » Et dans Actes, au chapitre 5, verset 32, il nous est dit « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Donc Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, à celles et ceux qui lui sont soumis et soumises. Amen. Et puis c'est important aussi parce que ça conditionne notre entrée dans le royaume des cieux. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, seulement ceux qui sont soumis au plan de Dieu dans ma vie. Amen. J'ai trois exemples de soumission en fait qui ont permis de vivre ce verset-là et de vivre le « soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous ». Trois exemples qui montrent que la soumission à Dieu fait fuir l'ennemi. Il y en a plein, hein, mais j'en ai pris trois parce que sinon on passerait son temps à raconter les merveilles de Dieu. Josaphat, en fait, le roi Josaphat, le roi de Juda, dans le livre des Chroniques, il apprend que le territoire de Juda est acculé par une grande, immense armée, nous dit le texte. Il y a les Moabites, il y a les Ammonites qui se sont associés, et il y a d'autres peuples qui se sont associés aussi pour porter la guerre en terre de Juda. Et donc, première action de Josaphat, il est paniqué, ce qui est normal. Une grande armée monte contre nous, là, 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 là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soumettre dans la prière, il va se soumettre dans l'humilité. Déjà, il dira, nous sommes sans force et nous savons que faire. Il fait une prière à l'Éternel, il dit, nous sommes sans force et nous savons que faire. Soumission dans l'humilité, dans la prière. Il rajoute, mais nos yeux sont sur toi. Soumission dans la confiance, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Ensuite, il va consulter les prophètes et il y a Jazakiel, je crois. J'ai oublié son nom, mais je crois que c'est Jazakiel qui va dire « Ne vous inquiétez pas », il convoque le peuple. Il publie un jeûne. Amen. Josaphat publie un jeûne et en présence du peuple, pendant ce jeûne et prière, Jazakiel dira « Dieu combattra pour nous, ne vous inquiétez pas ». Et donc, soumission dans la confiance en Dieu aussi, sur ses paroles. Ils décident de monter au combat alors qu'ils ont une armée ridicule par rapport à la masse qui monte vers eux. Et Josaphat place les chantres en tête de l'armée. Il reçoit ça, il place les chantres, amen, les louangeurs en tête de l'armée. Et la Bible nous dit qu'il y a une confusion dans les rangs de l'ennemi, au champ du peuple de Juda. Il y a une confusion totale et l'ennemi est dispersé, s'entretue, s'autotue et fuit devant Juda. Amen. Mais qu'est-ce qui a permis ça? Il est allé au combat, donc il a résisté au diable. En effet, il a placé des chantres, il est allé au combat. Mais avant d'aller au combat, il s'est soumis à la volonté de Dieu. Il a dit, il s'est soumis dans l'humilité. Il a dit, nous sommes sans force. Mais Seigneur, nos yeux sont sur toi. Et il a cru à la parole du prophète, car Dieu combattra pour nous. Et il est allé au combat, il est allé en résistance. Mais la première étape, c'est la soumission à Dieu. Amen. L'histoire de David aussi, dans 1 Samuel, on la connaît par cœur. La première chose que fait David, c'est qu'il est soumis à son père naturel. Son père lui dit, écoute, va sur le front, il y a la guerre avec les Philistins, il y a tes trois frères aînés qui sont sur le front, va prendre des nouvelles, amène-leur à manger, et dis-moi comment ils vont, reviens avec des bonnes nouvelles, je l'espère. Et donc, David est jeune, David est un jeune berger, il aurait pu dire à son père, mais Seigneur, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller à la guerre, je me sens, non, pas capable d'assumer ça. Il a obéi. Il nous a dit que de bon matin, donc le lendemain matin, de bon matin, David légua son troupeau à un gardien et il partit au front. Amen. Soumission dans l'obéissance à son père. Et ensuite, vous connaissez l'histoire, hein, mais il y a une autre soumission. Il a, Saül lui a proposé son armure, son équipement, son épée. Et il a commencé à mettre ces choses-là et c'était trop grand pour lui. Il n'était pas habile, il n'était pas bien. Donc il a dit non, j'irai avec mon lance-pierre, ma fronde. J'irai avec ce que j'ai, j'irai surtout au nom de l'Éternel. Soumission dans la confiance en Dieu, dans la confiance de la puissance du nom de l'Éternel. Il n'a pas mis sa confiance dans des armes, dans une armure, dans des lances et des javelots. Il a mis sa confiance dans le nom de l'Éternel. La conséquence, on la connaît. Il est allé au combat, il a résisté au diable, il a résisté à Goliath. Et ça a été hyper rapide, on l'a vu, puisque au premier jet, en fait, il a mis Goliath à terre. Et le texte dit, et les Philistins fuirent devant Israël. Amen. Et puis, dernier exemple, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémané. Il est en souffrance terrible, il sait ce qu'il attend, il sait qu'il va être crucifié. Il est déjà acculé dans son corps, parce qu'il a déjà subi beaucoup de souffrances physiques. Et il est là, il dira, mais Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais il se ressaisit tout de suite, mais non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Soumission à la volonté de Dieu. Soumission à la volonté de Dieu. Et alors, ben on le sait, hein, ça a été le sacrifice le plus grandiose de toute l'histoire de l'humanité, puisque c'est ce sacrifice qui nous réunit ce matin en ce lieu. Amen. Je voulais vous dire, frères et sœurs, que je ne sais pas pourquoi, mais je sens quand même qu'il y a besoin d'upgrader dans notre soumission à l'Éternel et peut-être de lever certaines insoumissions qui sont présentes dans nos vies. Il y a plein de causes d'insoumission qu'on peut imaginer, il y en a plein. C'est énorme, il y a l'orgueil, il y a le non-pardon, il y a le contrôle de sa vie, il y a le manque de foi. Il y a des péchés, il y a les addictions, il y a la place que l'on donne à nos pensées. Ça peut être la colère, la peur, etc., etc. Et il y a différents types d'insoumission également. Il y a l'insoumission consciente et volontaire. Par exemple, c'est l'exemple de Saül. Saül, il était consciemment, il n'obéissait pas à Dieu, mais consciemment et volontairement. D'accord ? Donc Samuel, le prophète, lui a rappelé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je ne sais pas combien de fois. Et à un moment donné, ça clash, quoi, tout simplement. Et puis il y a l'insoumission consciente, mais non voulue, non volontaire. C'est-à-dire que on ressent que sur certains domaines de nos vies, on est insoumis à Dieu, mais c'est plus fort que soi. C'est peut-être compliqué. Et là, il y a un besoin d'aide, en fait. Dans la première situation, là, il y a besoin de s'humilier, de demander pardon. Mais dans cette situation-là, quand c'est plus fort que soi, quand on reconnaît notre insoumission, qu'on ne voudrait pas la garder, mais qu'elle est attachée à nous, peut-être qu'il y a besoin d'aide, de confession à une personne de confiance, de briser certains liens. Et puis il y a aussi peut-être une troisième forme d'insoumission, c'est l'insoumission inconsciente que l'on traîne, parce qu'il y a des liens générationnels qui sont là sur nos vies, dont on n'a même pas conscience, et qui nous empêchent d'être complètement soumis à l'Éternel, et qui fait que dans nos vies, à chaque fois qu'on mène un combat, on se fait balloter de droite à gauche par l'ennemi de nos âmes. Et puis, je voulais parler de notre pays, notre cher pays de France. Nous, les Français, nous, les Gaulois, on est les rois de l'insoumission. On est connus pour ça. On est un peuple rebelle. On est un peuple râleur. On est un peuple qui a du mal à se soumettre à la volonté de nos patrons, de nos politiques, de qui que ce soit. Et encore moins, et cet esprit-là, cet esprit de ce siècle qui est présent dans ce pays depuis des siècles et des siècles, indubitablement, rentre dans l'Église. Malheureusement, cet esprit de ce siècle pénètre toutes les sphères de la société et aussi l'Église. Et je voulais vous dire ce matin que, ayons conscience de ces choses, ayons conscience que si on a de la difficulté dans nos combats à avoir le dernier mot, à vaincre l'ennemi, peut-être que ce n'est pas qu'on résiste mal, parce qu'on résiste, on est volontaire pour résister. Mais peut-être parce qu'il y a des zones d'ombre dans nos vies, il y a des zones qui sont encore insoumises à la volonté de Dieu. Amen. Et se soumettre à sa volonté, ça n'est pas vivre sous un joug et subir sa vie. C'est lui faire confiance et rentrer dans les projets qu'il a pour nous. Tu peux dire et tu peux penser, mais moi je mène ma vie comme je l'entends. Et Dieu me bénit, Dieu est avec moi, mais je mène ma vie comme je l'entends. C'est une fausseté. Tu ne mènes pas ta vie comme tu l'entends. Tu dois la soumettre à Dieu, en tout point. Et souvent, on fait la part des choses entre notre vie spirituelle, notre vie humaine, notre vie terrestre, notre vie professionnelle, notre vie familiale. Mais Dieu est là dans tous les domaines de nos vies. Amen. Et ce n'est pas être privé de liberté. C'est ce que tu crois. C'est ce que ta chair te dit. Ouh là là, si je me soumets entièrement, si je donne ça à Dieu, ouh là là, je vais perdre ça. C'est ce que Satan te dit. Tu vas perdre ça. Ça va être dur. Ça va être insurmontable. Mais ça n'est pas être privé de liberté, c'est vivre justement la pleine liberté des enfants de Dieu. Parce que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Et la soumission à Dieu, elle n'écrase pas, mais elle élève. Elle n'enchaîne pas, mais elle libère. Amen. Elle ne prive pas, mais elle comble. Et il faut arrêter d'écouter l'ennemi qui te dit, si je soumets ça, si je perds ça, oh là là, oh là là, au nom de Jésus, nous voulons briser ces pensées. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et j'ai envie de te conseiller, mon ami, ce matin, de demander à Dieu de te révéler quelles sont les sphères d'insoumission de ta vie. Il y en a forcément, on en a tous. Nul n'est saint devant l'Éternel. Amen. On en a tous. Mais ce que Dieu regarde, c'est notre cœur et c'est notre intention. Et si on est dans ce désir de mettre le doigt sur ces zones d'insoumission qui nous empêchent de mener le combat spirituel comme il l'entend et de vaincre l'ennemi, que Dieu ne le mette, que Dieu le fasse, que Dieu nous montre. Amen. Et je voudrais, parce que pendant que je préparais ce message, il y a trois causes d'insoumission. Il y en a plein, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, je les ai évoquées. Mais trois causes d'insoumission que j'ai reçues personnellement pour notre Église ce matin. Il y a d'abord l'orgueil. La suffisance, la volonté de contrôler sa vie, de la mener sans consulter Dieu. C'est l'exemple du roi Saül, j'en ai déjà parlé. Et quand tu te donnes à Dieu, en fait, tu es dans un mariage avec lui. Nous sommes l'épouse, il est notre époux. Et quand tu te maries avec ta femme ou avec ton époux, les décisions, en général, vous les prenez ensemble. Vous achetez une maison, vous décidez ensemble. Vous changez de métier, vous changez de profession. Ça fait partie d'une discussion entre vous. Et en fait, si tu décides de dissocier ta vie spirituelle et ta vie terrestre, tu ne marches pas avec le Seigneur. Tu ne marches pas en couple avec le Seigneur. Et c'est ça, ce à quoi il t'appelle ce matin. Et je vais te dire, si tu es dans cet état d'esprit-là, et si la cause de ton insoumission est ton orgueil, ta suffisance, ton contrôle, ta volonté de contrôler ta vie, je vais te dire, tu ne combats même pas le combat spirituel. Parce qu'en fait, tu ne te bats même pas contre Satan, tu te bats contre Dieu lui-même. Parce que Dieu dit, je résiste aux orgueilleux. Et si Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut dire qu'il est en guerre contre l'orgueilleux. Amen. Et le diable va te balader. Je te le dis avec beaucoup d'amour, mais c'est des mots forts, mais c'est des mots justes. Il va continuer à te flatter dans ton orgueil, et il va te balader. Et puis tôt ou tard, dans l'histoire de Saül, vous avez vu ce qui s'est passé, à force d'être rappelé par le prophète Samuel, Saül a été destitué et l'onction a été donnée à David. Et c'est David qui a pris la suite. Au départ, Dieu avait choisi Saül. Il a été destitué à force de se rebeller contre Dieu, à force d'être rebelle à Dieu. À force de ne pas obéir, à force d'être insoumis. C'est pas la fin que l'on souhaite pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu est là, mes amis. Mais voilà, reconnaissons s'il y a de l'orgueil dans nos vies, s'il y a un besoin de contrôle. La Bible dit « Humiliez-vous sous sa puissante main ». Non pas pour nous faire mal, mais pour nous relever au temps favorable. Et ça, c'est la deuxième partie du verset. « Humiliez-vous sous sa puissante main ». Non pas pour rester plaqué au sol, mais pour nous relever au temps favorable. Amen. La deuxième chose que je voulais vous partager, qui est une cause d'insoumission, c'est la peur. La peur de l'inconnu, la crainte de perdre sa liberté, qui dénote un manque de confiance. C'est l'image du chrétien qui ne prend pas ses responsabilités, qui est dans un slogan « Vivons heureux, vivons cachés ». D'accord ? Qui est comme l'a dit Stéphanie ce matin, si nous nous taisons, taisons-nous. Mais si nous nous taisons, c'est les pierres qui crieront. Et donc c'est le chrétien qui n'a pas compris qu'en Dieu, il est tout puissant. en Dieu, il peut tout. Ou du moins, il a compris, mais il n'en veut pas. Il y a une résistance, il y a une insoumission. Il n'est pas intéressé par le combat spirituel. Il ne se sent pas concerné par le combat spirituel. Et c'est une erreur. Là aussi, c'est un mensonge de l'ennemi. Et les talents que Dieu lui a donnés, il les a enfouis. Il ne les fait pas fructifier. Il écoute uniquement les mensonges de l'ennemi. Et il vit dans la peur, la crainte de perdre sa liberté. C'est l'image de Jonas. Amen. Dieu lui dit, va à Ninive. Il prend le chemin inverse. Et regardez ce qui s'est passé, il a été jeté à la mer. On n'a pas envie d'en arriver là, frères et sœurs. Et moi, j'ai été un Jonas. Personnellement, je m'identifie à Jonas. J'ai été un Jonas pendant des années dans ma vie. Mais c'est fini. Au nom de Jésus, je proclame que c'est terminé. Je ne veux plus me taire. Alléluia. Je ne veux pas que les pierres crient pour moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis, un dernier point aussi que j'avais à cœur de vous partager, une cause d'insoumission, c'est l'échec. C'est l'incompréhension face à des situations inattendues, inexpliquées. Et le personnage qui se réfère à ça dans la parole de Dieu, c'est Job. Job, il avait tout pour être heureux. Et en un clin d'œil, en quelques jours, il perd tout. Il perd sa famille, il perd sa richesse. Il est même, dans un second temps, touché dans son corps. Il perd sa santé. Et en fait, quand on est comme ça, et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais Dieu est Dieu. Et la Bible dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Nous sommes des vases parmi des vases de terre. L'argile, dit-il à celui qui la façonne, que fais-tu ? » Non. Des fois, il y a des situations qu'on ne comprend pas. Et Job n'avait pas compris la situation. Et tous les textes de Job, en fait, les chapitres, c'est une discussion entre Job et Dieu. Et c'est presque un combat, en fait, dans « Pourquoi j'en suis là ? Pourquoi tu me fais ça ?» Mais à aucun moment, la Bible nous dit « Job est allé jusqu'à renier Dieu. » Il a discuté avec lui, il a échangé, il a essayé de comprendre, mais à aucun moment il a renié Dieu. Et en fait, quand on est dans cette situation-là, qui est légitime, il y a des situations qu'on ne comprend pas et qu'on ne comprendra pas. En fait, on mène deux combats. Si on ne lâche pas, si on ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, malgré ces situations-là, on est en train de mener deux combats. On mène un combat contre Satan, mais on mène un combat également contre Dieu, à force de discuter avec lui. Dieu n'est pas un père fouettard, frères et sœurs. Et Dieu n'est pas en train de nous dire « tu es un insoumis, tu es un insoumis, tu habites dans un pays qui est un pays d'insoumis depuis des générations et des générations, il y a un esprit d'insoumission en toi et tu es condamné. » Ce n'est pas ça. Il met le doigt sur ton insoumission pour te relever au temps favorable. Amen. Et j'aimerais vraiment qu'on finisse par prier. Si certaines personnes se voient en Saül, si certaines personnes se voient en Jonas, si certaines personnes se voient en Job, j'aimerais inviter l'équipe de prière, pour celles et ceux qui adhèrent à ce message et qui se sentent poussés pour venir prier, qui se sentent concernés, accompagnez-moi dans ce moment-là. Et celles et ceux qui veulent vraiment soumettre leur vie à l'Éternel pour remporter des victoires, eh bien approchez-vous, approchez-vous. Que vous soyez un Saül rempli d'ego et d'orgueil, que vous soyez un Jonas, un craintif, que vous soyez un Job, quelqu'un qui ne comprend pas et qui discute et qui ne reconnaît pas la souveraineté de Dieu, approchez-vous. Amen. Je vais demander aux équipes